The Sound of Your City Membership Drive, Monday, November 14th to Sunday, November 20th. You can donate right now in advance at our secure server by visiting www.ciut.fm. Everyone that makes a financial donation to the Sound of Your City Membership Drive will not only help us reach our goal of $60,000, but will also be eligible to win a trip to Iceland. The winner will receive economy class round-trip air on Iceland Air for two. Prize also includes three nights accommodation in Reykjavik, Iceland, in an Icelandair hotel. All compliments of Iceland, naturally. Details on the CIUT website. Simply go to www.ciut.fm to make your donation right now and be eligible to win that trip for two to Iceland.
Do you have a story to tell? Are you interested in dialogue and breaking down barriers? Perhaps you should be a human book. Human Library Project is where real people are on loan to their readers for 25-minute intervals. Human books tell their story in a one-on-one setting, and readers have the opportunity to ask questions. This year, we're looking for human stories that explore notions of home, coming home, leaving home, and complicating what it means to find home in Canada. We are particularly interested in hearing stories of Indigenous, Black, and racialized identities. Check out hearthouse.ca for more information, or Google Hearthouse Human Library.
Right here, right now, every day, CIUT 89.5, the sound of your city, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at ciut.fm or live from our studio. Pourquoi Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Francophonie.
Bonjour, au micro Thomas Chauvineau et au sommaire aujourd'hui, un prix littéraire un peu spécial, loin des grands classiques du genre.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, buena loco.
Adrabendo cosa, adrabendo cosa, dingue don.
Non è dingue don.
Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
En direct de Hart House Studio, Université de Toronto, en ce dimanche 6 novembre 2006, où que vous soyez, vous écoutez en ce moment une émission spéciale en direct de CUT 89,5 FM, la radio campus de l'Université de Toronto. L'ingénieur du son, DJ Devera, accompagné aujourd'hui de notre jeune stagiaire, Sloane Ballan. Au microphone, Eric Adair sur www.cut.fm jusqu'à 13h. Popourri Show, CUT FM, témoin de l'histoire. En partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises de l'Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto. Présidentielle américaine, est-ce le déclin de l'Empire américain? Allégations d'inconduite sexuelle d'un mur entre le Mexique et les États-Unis, scandale de courriel, des fuites du FBI, l'ingérence de la Russie, traitant les Mexicains de violeurs, de piratage informatique et d'élections truquées. Retour en 2 heures avec nos invités correspondants sur une campagne sans précédent. L'élection américaine vue du Canada, des États-Unis, de France et de l'Afrique. En dernière heure, Donald Trump évacué de la scène lors d'un rassemblement hier à Nevada. Plus de peur que de mal. Les démocrates semblent avoir perdu le momentum. Malgré tout, un récent sondage lui donne toujours de l'avance devant son rival républicain Donald Trump. Du vestiaire à l'isoloir pour la présidentielle américaine. Et oui, y a-t-il des thèmes de campagne auxquels vous êtes particulièrement sensible? Comment suivez-vous la campagne électorale et quelles sont vos impressions jusqu'ici? Qui a dit quoi? Participez et courez la chance de gagner un cadeau de notre partenaire. Et selon notre correspondant à RFI aux États-Unis, on constate que la religion est en perte de vitesse aux États-Unis. À la veille des élections présidentielles américaines, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en chanson, adresse un message important aux électeurs des États-Unis. Du magazine Écho d'ici, Écho d'ailleurs de Radio France Internationale, constat de l'économie américaine en demi-teinte avec des invités et analystes. Pourquoi Donald Trump fait trembler les dirigeants français actuels? Et du journal Jeune Afrique, l'Afrique complètement absent dans les débats. Analyse de Marwan Ben Yamed et directeur de publication de Jeune Afrique. Cap sur la Maison Blanche, les surprises du mois d'octobre avec Marie Normand, correspondant de RFI à Washington. Les prédictions de notre voyante, eh oui, à ne pas rater dans cette édition spéciale. D'une campagne à l'autre, les parodies politiques, la communication politique aurait-elle intérêt à s'approprier l'humour pour captiver les foules? Montage et mixage avec notre DJ Devera. Et pour cette édition spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir comme co-animateur le professeur Pascal Michel Houchy, directeur du département d'études françaises de l'Université de Toronto. Bonjour Pascal. Bonjour, et bienvenue. Et nos invités qui sont un peu partout à travers la planète, Michael Pilater, qui est conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger à Montréal. Il nous attend dans la première demi-heure. Notre partenaire média, François Bergeron, rédacteur en chef du journal Express de Toronto. Et on lui posera la question, la place, le rôle et la responsabilité des médias. L'élection américaine vue de l'Italie, professeur Nicolas D'Ambrosio de l'Université di Bari en Italie. Et pour résumer le tout, Anne Forrest-Wilson vers la fin de l'émission. Et elle nous parlera aussi de sa prochaine activité de l'écriture en mouvement. Pour nous joindre tout au long de cette émission, 1-86-946-7000 ou encore par courriel pot.pourri@sympatico.ca ou encore aller sur notre page Facebook. Inscrivez-vous, c'est gratuit. facebook.com/popourrishow.com ou encore Twitter. Et oui, vous pouvez gazouiller avec nous, comme on dit en bon français au Canada. #popourrishow. Professeur Michel Houchy, bonjour et bonjour, bien sûr, bienvenue à l'émission et aussi je dois vous remercier infiniment d'être là pour m'épauler pour cette émission spéciale.
C'est avec grand plaisir. C'est
tout un voyage intercontinental presque. Il faut rappeler aux auditeurs que votre département, le département d'études françaises de l'Université de Toronto, est l'instigateur, le fondateur de cette émission dont on célèbre la 30e année. Et nous sommes très, très heureux de votre soutien, de votre appui. Et vous êtes toujours aussi fidèle au poste comme votre prédécesseur, professeur Daniel Issa-Saye, qui est actuellement en Europe, n'est-ce pas?
Fidèle au poste de radio aussi.
Comment suivez-vous cette campagne sans précédent? Est-ce que le ton, le langage vulgaire vous étonne?
Ben, au début, on s'étonnait beaucoup quand même, mais on a petit à petit découvert des facettes qu'on n'aurait jamais imaginé autrement. Et puis finalement, au bout de 6 mois de ce régime, on a pris le pli, on s'est mis au pas et les choses nous choquent tellement moins maintenant. On se demande...
Donc c'est devenu la norme.
Ben, je ne vois pas comment on peut dépasser les horreurs qui ont été dites.
Allez, dans votre département là, d'études françaises à l'Université de Toronto, d'ailleurs, il y a des gens encore qui me posent « Ah oui, il y a un département d'études françaises à l'Université de Toronto. » Eh bien oui, c'est le plus grand même peut-être de l'Amérique du Nord.
Hein. Un des plus grands certainement, oui, au Canada certainement. Absolument.
Oui, parce qu'on parle toujours des autres universités, pour ne pas les citer. Est-ce que vos collègues, par exemple, les étudiants même, surtout les femmes, sont choquées par le langage dans ce débat politique aux États-Unis?
Oui, dans les cours, on en parlait assez fréquemment, même déjà avant l'été. La campagne avait à peine commencé à l'époque. Enfin, ça a commencé il y a un an, mais déjà l'année dernière, les étudiants s'y intéressaient pas mal. Mm-hmm. C'est quand même la plus grande démocratie du monde.
Oui. Est-ce qu'on pourrait s'attendre d'avoir un même débat de cette, je sais pas, avec des tournures pareilles au Canada ou en Europe?
Non, je pense pas. Nous sommes dans un système beaucoup plus apaisé et le discours public est beaucoup plus policé, beaucoup plus mesuré. Et nous avons 4 partis politiques nationaux et pas 2. En plus des partis régionaux, et donc ça fait une diversité déjà d'opinions, ce qui force déjà au respect mutuel.
On va passer de coq à l'âne de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent en Europe, mais aussi à Montréal et dans la région de Toronto, parce que d'une élection à l'autre, on va parler aussi de la présidentielle française, qui aura lieu l'année prochaine, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Et on parle des primaires, je pense que c'est au mois de novembre, n'est-ce pas?
Très bientôt.
Et donc, il y a eu 2 débats déjà. Et là aussi, ça suscite beaucoup, beaucoup de questions. Comme si que les gens sont un peu fatigués de la vieille politique, la vieille rengaine. Et c'est peut-être un peu la raison pour laquelle Donald Trump est devenu une star. Il était déjà star.
Il y a un grand appétit pour les remèdes forts.
Est-ce que quand on est star, on peut tout faire?
La notoriété n'excuse pas.
Professeur Pascal Michelucci, j'ai un invité pour vous, pour nos auditeurs. Écoutez bien Justin Trudeau qui adresse un petit message à Donald Trump. Et nous remercions les acteurs, les comédiens de TFO, la télévision française de l'Ontario.
Oh, mes pauvres petits choux, ce gars-là est pas fait pour vous. Vos 2 choix sont pas vargeux, Hillary est pas bien mieux. Au moins ses cheveux ont pas l'air d'un terrier. Il y en a peut-être juste un des 2 qui est un peu moins dangereux. Pensez à ce quand vous allez voter. Et tout le monde sait que je suis pas meilleur. Puis quand même, si vous comptez élire ce menteur, j'ai de la peine. Je peux peut-être me sacrifier. Si vous le faites gagner, faudrait que je vienne vous sauver. Ce qui est sûr, c'est que je suis bien meilleur. Meilleur que Donald.
Tout est l'emporter, un point, c'est tout. Mesdames, préparez-vous bien, mon oncle Donald s'en vient. Je veux juste vous donner un bec sur la joue. Et tous ceux qui viennent de loin, moi je les mets tous dans le même bain. Pas question que je les laisse rentrer chez nous. Oh, moi je sais que je suis pas meilleur, ben je suppose. Et pour vous prouver que j'ai pas peur, je dis plein de choses. C'est peut-être rarement vrai, mais foutez-moi la paix. Je m'en bats les taxes, je les paye jamais. Au moins, je sais que je suis bien meilleur. Meilleur que Justin.
insiste. Quand je parle, ça n'a pas vraiment rapport. Je prends des selfies, je suis sexy, full gentil.
Pas vrai.
Mon père est un aéroport.
Prouve-le.
Écoute-moi
parce que si j'étais
toi,
pas mal, hein,
n'est-ce
pas?
C'est magnifique.
Alors notre prochain invité, notre premier invité à l'antenne aujourd'hui, il est conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il est actuellement à Montréal, très très jeune encore. Vous allez voir, malheureusement, on est à la radio, mais peut-être un jour, on aura notre Facebook radio en direct. Parce que Donald Trump a aussi sa page Facebook, parce que lui, il trouve que tous les médias trichent.
Ah, partout.
Everything
tout
is rigged.
Tout le monde est
the
contre
media
lui.
Is rigged. tout le monde triche. Alors, Donald Trump a dépeint un pays encangrené par la violence, alors que les données au FBI montrent clairement que la criminalité chute depuis le début des années 1990. Le populisme a le vent dans les voiles en Occident, hein, de l'extrême droite française, le Front National, à la gauche radicale grecque, Syriza, en passant par la droite et la gauche américaine, Donald Trump et Bernie Sanders. Hein, ce sont deux éléments qui ont vraiment marqué cette élection présidentielle. Pourquoi cette poussée de fièvre populiste? Eh bien, il y a le professeur de sciences politiques d'Éric Montpetit, affilié au CERIUM et auteur de « In Defense of Pluralism, Policy Disagreement and its Media Coverage » à l'Université Cambridge, qui nous brosse un tableau sur ce phénomène du populisme un peu partout à travers la planète. Regardez le président des Philippines. Imaginez-vous le langage qu'il tient envers des femmes, envers le président américain. Mais c'est incroyable. Il est 90% dans les sondages.
Et tout le monde adore.
Peut-être vous et moi, nous devrions changer notre langage, n'est-ce pas, et notre ton pour enseigner nos élèves, nos étudiants et nos collègues, n'est-ce pas? Le populisme, donc, a souvent une connotation négative et peut ainsi servir à discréditer une figure ou un courant politique. Mais au-delà de l'étiquette, qu'est-ce que le populisme? Il y a deux éléments, dit-il, deux éléments fondamentaux à ce phénomène. Le populiste prétend d'abord parler au nom du vrai peuple, par opposition à un peuple réel, complexe et pluraliste. C'est une abstraction qui ne s'embrasse pas vraiment dans des faits, par exemple, à des sondages qui viendraient contredire un supposé mouvement de masse. Alors, nous allons... je trouve ça très intéressant parce que les gens, j'ai l'impression, n'ont pas eu l'occasion d'analyser vraiment le phénomène de certains populistes,
n'est-ce pas ? On n'a pas vécu ça depuis notre génération. Il faudrait probablement remonter à l'entre-deux-guerres pour avoir une intensité de telle expression publique.
Il ne faut pas oublier, il y avait aussi notre chère mère, regrettée mère, Rob Ford.
Oui, on l'a perdu malheureusement,
oui,
mais
oui.
Il faisait partie du paysage populiste.
Alors, nous allons passer à notre jeune invité, madame, monsieur, dans un instant, mais tout d'abord, pour l'accueillir d'une élection à l'autre, nous allons chanter en français toujours avec un rap français, un DJ français qui fait rapper notre président français, François Hollande. Écoutons.
Formidable.
Formidable.
Tu étais
formidable.
J'étais
formidable.
Nous étions formidables.
Formidable.
Tu étais formidable.
J'étais formidable.
Nous étions
formidables.
Depuis un an.
Putain.
Je ne peux pas faire de l'emploi.
Mais c'est bon.
Reviens. 5 minutes.
Quoi?
Je t'ai pas insulté. Je suis poli.
Courtois.
Formidable. Formidable.
C'est difficile de faire ce choix. C'est pas facile de s'y retrouver. C'est difficile de trouver l'équilibre. C'est pas facile de faire le consensus. C'est difficile de faire le consensus. C'est très difficile de faire le consensus.
Si j'aurais su, j'aurais pas venu.
RFI.
À Paris.
RFI.
Sophie.
Tu m'emmènes, Champs-Élysées.
À Paris, il sera toujours Paris.
Et oui, madame, monsieur, vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui en direct de l'Université de Toronto, CUT-FM, témoin de l'histoire, en partenariat avec RFI, le département d'études françaises de l'Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto. Et nous avons le plaisir d'accueillir notre premier invité, cher Pascal. Il s'appelle Michael Pilater, il est français, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger et il réside à Montréal. Bonjour, monsieur Pilater.
Bonjour à vous, merci de votre invitation.
Oui, comme j'ai dit aux gens au début, vous êtes encore très jeune et vous faites des choses extraordinaires pour votre pays.
Extraordinaire, je ne dirais pas, mais bon, effectivement, je suis un des plus jeunes conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Pour les Français, de tout l'étranger, je représente les Français du Canada.
Oui, alors, bienvenue à l'émission. D'ailleurs, ça fait quelque temps maintenant que vous y participiez. On est très heureux de vous avoir avec nous parce que nous vivons un moment historique avec cette élection présidentielle américaine. Est-ce que vous suivez là où vous êtes? Est-ce que cela vous intéresse, vous passionne de ce qui se passe aux États-Unis?
Évidemment, je pense que comme tous les Français, comme tous les Canadiens, nous suivons avec attention cette élection américaine qui, malheureusement, je le dirais, ne traite pas beaucoup de questions de fond, mais fait plutôt appel, comme vous le disiez juste avant, à des termes populistes qui, pour la politique, en tout cas pour un fan de politique comme moi, est un peu décevant.
Mais alors peut-être notre cher ami professeur Pascal aurait aussi des questions à vous poser. Mais Donald Trump a plusieurs fois fustigé la politique française, en particulier la politique anti-terrorisme. Il a même dit qu'il a pris des exemples comme il a des amis qui ne vont plus en France parce qu'ils ont peur de visiter Paris. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour l'industrie du tourisme français, ça, n'est-ce pas?
Bah écoutez, je vais pas vous le cacher, les chiffres du tourisme lors de l'été 2016 de cette année n'ont pas été très bons, il faut le reconnaître. Mais pour avoir été en France, là, j'y suis encore quelques jours, l'ambiance est pas du tout comme elle est décrite par Donald Trump. Les gens n'ont pas peur de sortir, les gens n'ont pas peur de se mettre sur les terrasses des cafés. Il y a ce sentiment, effectivement, d'insécurité qui avait été au moment des attentats compris par un certain nombre de gens, mais aujourd'hui il n'existe plus, les gens vivent normalement et je pense que Donald Trump alimente ces peurs qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui en France.
Mmh. Pensez-vous que les Français connaissent les politiques des deux candidats à la présidentielle américaine?
Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse très exactement les programmes des deux candidats, je pense qu'ils sont surtout connaisseurs des petites phrases qui sont relayées par surtout Donald Trump. Et ces bêtises, et je pèse mes mots sur ce qui avait été dit au niveau de la politique des armes à feu, je pense qu'il n'y a pas besoin d'alimenter ces sentiments et en tout cas ces événements qui ont tragiquement endeuillé notre pays, la France. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la politique d'armes à feu aujourd'hui en France, heureusement qu'elle n'est pas légalisée, et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, ça nous interpelle aussi à nous dire que finalement ça ne nous aiderait pas. Donc je pense qu'on n'a pas envie de rentrer dans les polémiques, mais on suit malheureusement cette campagne par les petites phrases qui sont dites ici et là par Donald Trump et relayées par les médias en France et internationaux.
Mmh. D'ailleurs, je vais poser une question tout à l'heure à notre ami professeur qui nous écoute aussi sur Internet à Bari en Italie. Est-ce que il veut construire un mur, hein? Build that wall, the wall. Alors, tout le monde en parle. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait marcher pour un politicien populiste ou extrême en Europe, de construire un mur sur les frontières européennes?
Bah écoutez, ça existe déjà, puisque vous avez le cas en Hongrie avec Viktor Orban qui a augmenté la taille du mur avec les frontières de son pays. Je pense que ça fonctionnera pas parce que l'Europe, c'est un ensemble de pays qui doivent respecter des règles internationales entre elles. Et ça serait à l'encontre de la logique européenne qui serait de protéger des frontières extérieures et pas intérieures. Mmh. Aujourd'hui, tous les pays membres de l'Europe n'ont pas vocation à créer des murs avec des pays qui ont des frontières qu'ils partagent dans l'espace Schengen. Ça ne fonctionnerait pas, et de toute façon, ça ne fonctionnerait pas avec les frontières extérieures, notamment Méditerranée. Là, vous avez une mer, et vous ne pouvez pas construire de murs dans la mer. Donc vraiment, c'est c'est absolument inconcevable en Europe, mais la logique américaine voudrait que ça puisse se faire. Bon, je sais pas, les Mexicains n'ont pas l'air très d'accord. En plus, il leur a dit qu'ils devraient payer pour le mur. Je crois que le président mexicain a réagi en disant que c'est une absurdité. Je pense qu'il a eu raison de lui répondre ça.
Oui, et puis en plus, il ne faut pas perdre de vue quand même que les pays sont liés par des conventions internationales concernant l'accueil des réfugiés, le droit d'asile. On ne peut pas quand même opter de ne pas appliquer les conventions dont on est signataire.
Oui, mais lui, il est contre tout. Il trouve que c'est mauvais pour les États-Unis. Lui, il va rentrer dans des conventions, des politiques qui soient bonnes pour les Américains, l'Amérique d'abord.
Mais s'il arrive à être élu déjà, il faudra qu'il se mette à négocier et renégocier dans tous les tribunaux d'arbitrage internationaux les conventions dont les États-Unis sont signataires.
Michael, quel est le candidat qui répondrait mieux, d'après vous, aux attentes des élus français? Parce que, justement, beaucoup de politiciens en France ont peur de Donald Trump en ce moment.
Écoutez, je serais bien présomptueux de dire pour qui les Américains devraient voter. Je pense qu'il faut leur laisser le choix. Et je ne suis pas fanat de la politique interventionniste des États vis-à-vis de d'autres États. Mais bon, vous avez bien compris qui... je pense que c'était le candidat que j'espérais voir à la tête des États-Unis. C'est un moindre mal, mais je dois vous dire qu'il faut comprendre peut-être aussi le sentiment des Américains. Vous avez, alors je suis un petit peu peut-être de près la politique américaine, mais vous avez pas mal de sondages qui montrent que Donald Trump et Hillary Clinton sont autant détestés, à la fois chez les démocrates et à la fois chez les républicains, et que les électeurs finalement choisiront le candidat le moins pire, et pas celui qu'ils espèrent pouvoir mener l'Amérique dans une direction qui améliorerait la situation économique, la situation internationale, la situation sécuritaire. Donc vous voyez que aujourd'hui il n'y a pas de candidat qui se détache comme le grand gagnant des idées, mais ce serait le gagnant le moins pire pour faire barrage à l'autre. Et effectivement, je vous réponds encore une fois que moi je ne donne aucune leçon de morale aux Américains. C'est pas une question de peur, je pense que c'est une question aussi de logique et une question d'intérêts nationaux et internationaux que d'éviter que Donald Trump arrive à gagner le pouvoir aux États-Unis la semaine prochaine.
Il parle bien, hein, comme un jeune Français.
Ah oui, très éloquent.
Très éloquent, oui. Alors, avant de terminer, vous posez une question peut-être un peu indiscrète, on va faire un petit jeu. Qui a dit quoi? Ce que veut Trump et Clinton pour l'Amérique. Qui a dit quoi? Il veut imposer ou elle veut imposer plus de contrôle aux Français.
Oh, ça doit être Donald Trump.
Oui, en effet, vous avez raison.
C'est pas très compliqué.
Et puis, lui ou l'autre estime que les Français, dont le pays est totalement gangrené par le terrorisme, feraient l'objet de contrôle plus poussé pour pouvoir entrer aux États-Unis s'il était ou si elle était élue.
Je pense que c'est encore le même personnage.
En effet, où serez-vous le 8 novembre pour assister aux résultats des élections?
Le 8 novembre, je serai devant ma télé, oui. en espérant que le résultat des Américains soit à la hauteur des enjeux. Mmh. Mais c'est pas encore fait, même si les sondages y arrivent avec cette histoire de l'enquête du FBI qui oui. n'aide pas la candidate démocrate. J'espère vraiment que les Américains vont se mobiliser, parce que vous savez, quand on est démocrate, comme je pense nous tous, on espère que les gens se mobilisent pour aller voter, aillent choisir leur candidat s'ils ne l'ont pas fait par anticipation, et choisissent celui qui portera pendant 4 années le pays au niveau national et international. Et c'est vraiment essentiel, parce que qui ne peut pas s'intéresser à ce que va devenir les États-Unis, qui est quand même la plus grande puissance mondiale, économique, militaire. Donc c'est des enjeux qui nous concernent en tant que Français, en tant que Canadien, parce que moi je suis binational, j'ai cette chance. Donc j'ai à la fois ce sentiment de proximité en étant Canadien au Canada, mais aussi avoir un regard très sérieux et très stratégique vis-à-vis des États-Unis, qui sont le premier investisseur en stock en France au niveau économique. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux qui sont très intéressants pour les Français et les Canadiens.
D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs français qui s'installent de plus en plus aux États-Unis. J'étais à Los Angeles, mais aussi San Diego, San Francisco. Et j'étais étonné d'entendre parler français avec l'accent de France un peu partout. Et beaucoup, ce sont des entrepreneurs qui investissent aux États-Unis. Alors, ça serait très, très intéressant.
Vous voyez, si vous voulez limiter l'immigration française aux États-Unis, ça n'a pas de sens.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation est faite de telle que Aujourd'hui, il y a vraiment une vraie mobilité. Les Français vont au Canada, vont aux États-Unis, se déplacent et espérons aussi que les Américains viennent en France parce que nous avons besoin qu'il y ait ce mélange, qu'il y ait ces échanges, qui soient des échanges humains, des échanges économiques. Vous voyez, on a vraiment besoin de renforcer ces partenariats et je suis certain que les Américains ont à cœur que ça se termine bien et qu'on arrête de montrer les Américains du doigt parce qu'un de leurs candidats fait la polémique via telle ou telle phrase oui. qui finalement n'élève pas le débat.
Michael Pilater, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger en direct de Montréal, on vous remercie de tout cœur.
Merci Michael.
Et on se voit, merci à vous. On se voit si l'Amérique existe encore après le 8 novembre, je l'espère.
Bon, je pense qu'elle existera toujours, espérons.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Mesdames, Messieurs, vous écoutez une émission spéciale en ce dimanche 6 novembre en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises de l'Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto. Pour nous joindre, pot.pourri@sympatico.ca ou encore en direct, notre jeune stagiaire Sloane Ballant attend votre appel au 416-946-7000. Pot pourri show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Discover the secrets of a not-so-far-away land. The Taste of Iceland Festival returns to Toronto November 10th through 13th. Experience a weekend filled with Icelandic culture, savor the flavors prepared by renowned Nordic chef Sigi Helga at Jump, take in a free concert at the Horseshoe Tavern, and watch an award-winning feature film at the Royal Theatre. Discover the secret behind Icelandic literature at Ben McNally's. Experience Iceland at the Taste of Iceland Festival, November 10th through 13th. For more information, visit IcelandNaturally.com or search Iceland Naturally on Facebook.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Well, first of all, it's great to be with you and thank you everybody.
This is it, your last chance to make an impression, so let's make it count.
Okay.
We know we've got lots of work to do.
Let's do this in B-flat minor.
He choked. He goes around with crocodile tears.
We have so many adversaries overseas. Can we all agree to be frenemies?
I would work with our allies in the Middle East. That's the only way we're going to keep the peace.
Okay.
Muscle. So sad, so sad.
It's a catastrophe.
So bad, so bad.
Can everyone achieve the American dream? Or should they sign up for my Ponzi scheme?
We are gonna go where the money is.
All right.
We are gonna help small businesses.
Our jobs are being sucked out of our economy. Right now, our country is dying bigly.
Why do you run the show?
We've gotta do more.
Tell us, 'cause we need to know.
We need to give the drug lords
two more weeks until we vote.
You get shot walking into the store.
Who should really
Donald got into a Twitter war.
For the Supreme Court, who would you choose? Please don't say me, I'm a busy dude.
The Supreme Court, it's what it's all about. The Second Amendment is under such trauma.
Guy, understand and respect gun ownership. I hope the Senate confirms the nominee of President Obama.
To stop a Cold War, what should we be doing? Would you go from Russell Vladimir Putin?
Putin, this is not my best friend. He's our target, Hillary, and she's playing chicken. Look at the startup they signed.
You are willing to spout the Putin line. These cyber attacks from the Kremlin are designed to influence our election. Putin has a very clear favorite in this race. He'd rather have a puppet as president of the United States.
Why should you run the show?
We have horrible deals.
Tell us, 'cause we need to know.
Donald bought Chinese steel.
Two more weeks until we vote.
I should win easily.
Who should really run
see. It's certain sums, I say it's rigged. She should never have been allowed to run based on what she did.
I see.
Our democracy works. We've had free and fair elections. Donald thinks things are rigged every time things are not going in his direction.
We have some bad, bad hombres here, and we're gonna get them out. That's what it's all about, bad hombres.
Watching you run the show.
I wanna raise an animal wage.
Tell us, cause we need to know.
Our country is so outplayed.
Two more weeks and two before.
We invest from the ground up.
Wow, that was great, guys. Fantastic melody.
Thanks a lot for doing a great job.
I'm very proud of that.
Alors, c'est intéressant.
Ah, c'est magnifique.
Alors, c'est bien sûr, on a fait un montage de tous les débats, les trois débats que nous avons pu assister, n'est-ce pas? Il y avait près de plus de 80 millions hein, de personnes quand même à travers la planète qui ont assisté à ces débats. Et ce que on a repris, la dernière, le dernier débat, c'est Bad Hombres et Nasty Women. Et grâce au DJ Al Yakovic des États-Unis, bien sûr, il y a
très
beaucoup
talentueux.
De DJ qui font des choses merveilleuses. Alors, avant de passer à notre ami François Bergeron, Trump a prêté, comme vous savez, son nom à des dizaines d'hôtels, d'immeubles et terrains de golf à travers le monde. Savez-vous qu'il y a un hôtel Trump au cœur du centre-ville de
Toronto? À Toronto, oui.
Oui. Dans le quartier des affaires.
On n'a pas l'université, mais on a l'hôtel.
Je ne donnerai pas l'adresse parce que je ne suis pas là pour faire la publicité pour Monsieur Trump.
Mais il a simplement prêté son nom contre.
Oui, et c'est pas super, super. Je suis allé une fois juste comme journaliste. Hein. Je dois faire des investigations, n'est-ce pas?
Absolument.
Et au 51e étage, on ne voit que des buildings, que des immeubles. On n'a pas de vue et c'est sombre. Je n'ai pas trouvé ça fantastique. Mais cette semaine, les médias de Toronto et du Canada ont écrit en grosses lettres que Trump, l'hôtel de Trump ne fonctionne plus. Ça fait faillite.
Ah, ça y est, c'est fait, c'est effectif.
Ouais, ouais, ouais. Alors, selon le journal Le Devoir, l'histoire de la fortune de Trump revivra par contre au Yukon. Pour expliquer aux gens, aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent sur le web, le Yukon, c'est toujours au Canada ?
C'est très loin, oui.
C'est très loin.
Le Grand Nord.
Et il fait très froid. Et dans un coin perdu du Yukon, il se trouve peut-être quelques kidam qui prient en secret pour que le coloré et ébouriffé personnage de Donald Trump remporte la présidentielle américaine.
Ça doit être un ami de Sarah Palin, ils ne sont pas très loin.
Ouais. D'ailleurs, Sarah Palin peut voir la Russie de sa fenêtre.
Apparemment.
Ouais. Parc Canada, dans la foulée d'une entente conclue avec les Premières Nations de la région de Carcross Tagish au Yukon, entend ouvrir dès l'été prochain, tenez-vous bien mon cher Pascal, un hôtel, une salle à manger et des tentes de luxe dans le bucolique site naturel de Bennett au Yukon, inspiré de l'Arctic Hotel, où le grand-père de Donald Trump a fait fortune lors de la ruée vers l'or au tournant des années 1900.
Wow,
ouais. Le magot gagné dans cet hôtel de passe par le patriarche aurait ensuite été réinvesti à Manhattan où ses héritiers sont devenus des magnats de l'immobilier. Donc c'est en 2015 que les biographes de Trump ont braqué les projecteurs sur Bennett en levant le voile sur le passé ou en couleur de Friedrich Trump. Et les médias américains ont fait leur chou gras du bordel sur lequel s'est bâtie la fortune de l'aïeul de Trump. Quant au facteur Trump, il reste une arme à double tranchant. Je ne suis pas certain qu'en matière de marketing, ce soit vraiment un avantage pour nous, le Canada, n'est-ce pas ?
Non, c'est pas très, très glorieux d'avoir reçu et aidé, donné 1000 pieds à l'étrier du grand-père.
Dans un instant, madame, monsieur, nous allons passer à monsieur François Bergeron. Il est rédacteur en chef depuis quoi, plus de 30 ans, 35 ans. Donc spécialiste des médias, médias francophones dans un milieu minoritaire. Je déteste ce mot minoritaire. Nous sommes francophones, nous sommes égaux à des anglophones. Ce mot ne devrait pas exister. D'ailleurs, monsieur François Bergeron, c'est très intéressant de voir le fil de son trajectoire professionnelle au niveau de, en tant que rédacteur. Je vais poser la question, est-ce que quand on est journaliste, on peut être neutre? Parce que quand même, les médias aux États-Unis ont pas mal braqué les projecteurs sur Trump hein, et ses affaires.
Oui, heureusement, et les émissions d'humour aussi. Hein.
En juin 2015, le milliardaire et mania de l'immobilier Donald Trump s'est lancé dans la course à la présidence américaine.
I am officially running
for President of the United States, and we are going to make our country great again.
Sa campagne a sidéré l'establishment politique des États-Unis.
Les Américains en ont assez de se lever tous les jours et de regarder leur pays s'enfoncer dans la mouise.
C'était génial.
Thank you, everybody. Thank you very much.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Et oui, c'est peut-être notre invité là qu'on a entendu tout à l'heure. On va lui poser la question. Sa voix est partie. Alors, comment transférer l'adhésion que l'on suscite vers quelqu'un d'autre? Barack Obama intensifie ses efforts pour qu'Hillary Clinton lui succède à la Maison Blanche pour tenter de mobiliser les troupes. Un message qui pourrait se résumer à une formule: faites-le pour moi. Vous m'aimez, votez pour elle. Alors, c'est un slogan. Et d'ailleurs, président Obama, on pourra parler aussi de son héritage. Qu'est-ce qu'il lègue finalement aux Américains? On fera une émission avant le 20 janvier, parce que c'est la date de l'assermentation du nouveau président ou la nouvelle présidente. Il y en a un qui croit encore que M. Trump va gagner. Alors, on fera une émission peut-être avec vous et vos collègues sur... Quel héritage lègue Barack Obama, le premier président africain, afro-américain? Et qu'est-ce qu'il lègue? Parce que d'après Donald Trump, tout va mal dans ce pays et tout est triché. Oui. Bonjour Monsieur Bergeron, comment allez-vous?
Bonjour Eric.
Et merci beaucoup d'être là.
Hein? Ça me fait plaisir.
D'ailleurs, ça fait longtemps, plus de 20 ans, qu'on a ce partenariat avec le journal Express de Toronto. On reprend les grands titres du journal Express de Toronto et en retour, vous nous donnez de la publicité. Et grâce à vous, nous avons découvert des francophones, des gens très sympathiques qui sont avec nous, bénévoles ou amis maintenant. Merci beaucoup de la part de toute l'équipe.
Ben oui, tout va bien.
Alors, je suis avec le professeur Pascal Michelucci de l'Université de Toronto. Il en est le directeur du département d'études françaises.
Bonjour, Monsieur Bergeron.
Oui.
Bonjour.
Alors, donc, on a un petit panéliste. On va se mettre les projecteurs sur les médias, le rôle, la place, les enjeux, mais aussi la responsabilité des médias, parce que nous avons vu quand même... Il y a très peu de médias hein, qui ont soutenu Donald Trump dans cette campagne. Alors vous, en tant que rédacteur en chef d'un journal, l'Express de Toronto, qui est là depuis très longtemps dans notre communauté, dans le paysage audiovisuel, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez intérêt à suivre cette élection américaine, présidentielle américaine?
Oui, bien sûr, on a suivi de très près la campagne présidentielle américaine. J'ai écrit plusieurs articles là-dessus. J'ai interviewé plusieurs personnes qui observent eux aussi attentivement ce qui se passe aux États-Unis parce que, évidemment, c'est très important pour le Canada et, en fait, pour le reste du monde.
Mmh. Le ton, le langage vulgaire, est-ce que cela vous a surpris?
Oui, c'est la première élection, en fait. C'est pas la première élection, parce que si on remonte aux années 1800 quelque chose, il y a eu des campagnes où les candidats s'accusaient de toutes sortes d'affaires, de pédophilie, des déséquilibrés mentaux. Bon, mais disons que dans depuis franchement le 20e siècle, on avait des campagnes présidentielles qui étaient quand même assez civilisées, civiles. Les candidats, même s'ils étaient absolument opposés les uns aux autres, se respectaient publiquement dans le sens où on écoutait ce que l'autre avait à dire puis on essayait de contrer avec des arguments sérieux. Mais là, vraiment, cette élection-là, c'est comme si tout fout le camp. On peut dire n'importe quoi, on s'accuse de n'importe quoi. Donc, c'est effectivement, il y a une civilité qui a pris le bord dans cette élection-là.
D'ailleurs, des propos infâmes à l'encontre des femmes, des scandales sexuels. Il y a plus de 12 personnes, 12 femmes d'ailleurs, qui l'accusent maintenant d'agression sexuelle. Mmh. Et comment expliquer qu'il est toujours là? Personne n'arrive à le déplacer.
Ben écoutez, il est toujours là parce qu'il a des appuis. Hein? Trump incarne quand même une volonté de changement chez un grand nombre de gens. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est une personne assez instable. C'est une personne qui a beaucoup de défauts. Mais c'est un anti-politicien iconoclaste. Il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol des politiciens traditionnels et de l'élite bureaucratique. Et Clinton représente à merveille cette élite bureaucratique, la continuité de choses qui vont pas selon les partisans de Trump, évidemment. Et donc, il est là parce qu'il a un mouvement derrière lui.
Mmh. La base quand même de Trump, c'était très intéressant au début. Il a dit, moi, j'aime bien les gens qui ne sont pas éduqués.
Ben, il est lui-même assez ignorant de beaucoup de choses, alors... Il se regarde dans le miroir quand il dit ça.
Oui. Maintenant, au niveau de la presse, ça c'est très intéressant de voir toutes ces histoires qui ont été fouillées. Là, les gens sont allés dans les archives depuis plus de 40 ans, 50 ans pour aller voir dans son passé ces histoires. Ici, vous, en tant que journaliste, d'ailleurs, il se passe des choses très intéressantes chez nos voisins québécois, n'est-ce pas, avec la Sûreté du Québec et les médias et le Premier ministre Trudeau qui va sans doute passer une loi là, pour les médias bientôt. Alors, ici aussi, on voit que ça bouge au milieu médiatique, mais c'est très intéressant de voir le rôle des médias américains dans cette campagne électorale. Est-ce qu'on peut être neutre quand on est journaliste aujourd'hui?
Oui, on peut essayer d'être objectif et de couvrir, de présenter les deux côtés. Évidemment, les journalistes sont des humains aussi, alors ils ont des opinions, ils penchent d'un côté ou de l'autre. Moi, à mon avis, dans cette campagne-là, c'est la première campagne où les médias sont dépassés par les candidats. Alors que jusqu'à maintenant, c'était toujours les candidats qui étaient dépassés par les médias, qui devaient courir, qui devaient réagir à ce que les médias sortaient sur eux ou sur l'autre. Alors que maintenant, c'est les médias qui doivent réagir à ce que sort le candidat sur Twitter ou à ce que... Les candidats ont un bien meilleur contrôle à cause des médias sociaux de leur campagne par rapport à ce que peuvent couvrir les médias traditionnels qui restent les vrais médias, évidemment.
Mm-hmm.
Alors, les médias aujourd'hui sont un peu dépassés par les candidats, ce qui est une nouveauté dans cette campagne-là. Il va falloir, de notre point de vue, évidemment, les médias reprendre un peu le contrôle du débat ou du narratif là, des événements.
D'ailleurs, il y a plusieurs grands journaux, des quotidiens anglophones qui ont sondé un peu l'opinion publique des Canadiens pour voir un peu ce qu'ils en pensent de l'élection présidentielle américaine. Dans l'ensemble, que diriez-vous un peu à nos auditeurs qui nous écoutent ici et à l'étranger de la façon dont, enfin, le moral des Canadiens face à cette élection présidentielle américaine?
Ben, le moral des Canadiens, enfin, l'attitude des Canadiens vis-à-vis ce qui se passe aux États-Unis n'est pas très différente de ce qu'on voit en Europe ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on est généralement assez inquiet d'une présidence de Donald Trump parce que, tout simplement, Clinton représente tellement la continuité. Alors, comme on sait ce qui se passe sous Obama, on n'aura pas de surprise avec Clinton. On sait qu'on aura beaucoup de surprises ou de... En fait, on ne sait pas ce qui nous attend.
Peut-être on aura...
Avec Trump, c'est ça le problème. Ouais. C'est très imprévisible. Il se contredit sur beaucoup de choses, donc on ne sait pas vraiment c'est quoi ses politiques. Alors, c'est une présidence très imprévisible que serait celle de Donald Trump.
D'ailleurs, on voit bien son regard sur ce qui se passe à Mossoul, en Irak. Il dit, mais où en est l'effet surprise? Alors, on voit bien que...
Oui, mais ça, c'est ridicule. Ouais. C'est bien sûr que sur le terrain... quand on prépare une attaque du type de celle qu'on prépare sur Mossoul, l'ennemi, c'est ça. On ne peut pas faire une attaque surprise.
Vous savez, nous avons une voyante qui est avec nous.
Écoute, ah, bravo.
Oui. Si la tendance se maintient, le 8 novembre prochain, Hillary Clinton 275 contre 273 pour M. Donald Trump. Et oui.
Ah bon, c'est vous, ça, la voyante?
C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du résultat final, la joute finale? Est-ce que madame...
Oui, je m'attends moi aussi à ce que Clinton l'emporte. Et je m'attends à ce que ce soit serré. Alors, on verra mardi, évidemment.
Oui. Alors, nous allons jouer, comme nous avons fait un peu avec tous nos auditeurs. Vous savez, qui a dit quoi? Alors, dans cette campagne électorale, je pense, au lieu de passer le programme en détail à nos auditeurs, on ne va pas les casser la tête avec ça. Le premier geste que je fais, c'est de poser, une fois élu, c'est d'abolir le plan de santé Obamacare. Qui a dit ça?
Ben, c'est pas Trump. Parce que Trump était le seul des candidats républicains à ne pas vouloir, justement, jeter Obamacare par la fenêtre. Alors, ça peut pas être Trump.
Pourtant, c'est lui qui l'a dit.
Et ben, il se contredit.
Ouais.
Parce que dans sa campagne au leadership républicain, il était le candidat le plus pro-Obamacare.
Alors, qui a dit quoi? Regardez-moi ces médias médiocres, malhonnêtes. Ils manipulent les informations.
Oh, ça pourrait être les deux, mais je pense que ça doit être Trump, là. Mais,
oui, en effet. Qui a dit quoi? Il a plusieurs fois répété ses appels pour qu'il y ait des enquêtes poussées sur les citoyens de ces pays qui avaient été très critiqués, y compris dans son propre camp, pour sa proposition de bannir l'entrée des États-Unis aux musulmans et du monde entier. Notre constitution, dit-il, est fantastique, mais elle ne nous donne pas le droit de nous suicider, OK?
Qui a pu dire ça? Obama, peut-être.
Mais non, c'est M. Trump.
Encore? Comment?
Alors, où serez-vous, M. Bergeron, le jour de l'élection présidentielle et résultats?
Je serai devant ma télévision,
ouais,
en train de regarder les résultats.
Ouais. C'est intéressant de voir avec Pascal tout à l'heure, on a fait une liste d'endroits très intéressants où des bars, des bistrots, des restaurants qui organisent des happenings, et des fois haut en couleur, et pizza gratuit.
Oui, ben de fait, chez moi, j'invite quelques amis là, pour regarder l'élection.
Soirée pop-corn.
Effectivement.
Alors, ça vous énerve un peu, non?
Ça m'énerve, non. Ça m'énerve pas. Au contraire, pour les médias, on se plaît presque de façon un peu diabolique à souhaiter une élection de Trump, parce que là, il va avoir un monde de nouvelles à rapporter. Alors qu'avec Clinton, ben, on va retourner se coucher.
Allez, passez une bonne journée. Encore une fois, merci de la part de l'équipe d'avoir participé à cette émission historique. C'est un moment historique pour les États-Unis.
Absolument.
Oui.
Merci, monsieur.
Passez une bonne journée.
Au revoir.
My friend, we have traveled very far. We have no food, no water. Once I see my people fed, I would be honored.
No. We have a serious problem with radical Islam. We have a tremendous problem. And we can't be the stupid country anymore.
Where I come from, guests are treated with respect, not insulted at the gates.
Given the circumstances, my lord, I believe extreme measures are warranted.
The people that are with me 100% are the people.
What?
The Pope. The Pope was in Mexico. Do you know that? Did everyone know, right? He said negative things about me.
Dreadful.
The Pope is being told that Donald Trump is not a nice person. Donald Trump is a very nice person.
If you do not let us in, all of us will die.
I said temporarily. I didn't say permanently. I said temporarily.
We have no border. We have no control. People are flooding across. We need to build a wall, and it has to be built quickly. The greatest builder is me.
En ce dimanche 6 novembre 2016, émission spéciale en direct de l'Université de Toronto, Hart House Studio, Popourri Show, CUTFM, Témoins de l'Histoire. En partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises de l'Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto. présidentielle américaine. Est-ce le déclin de l'Empire américain? Alors, Pascal, vous avez entendu là un montage. On a même des films qui sont maintenant projetés sur les grands écrans avec Donald Trump comme acteur principal.
Peut-être que, comme partie de son mur, il mettra un hôtel aussi, ou une chaîne d'hôtels le long de la frontière. Ouais. Comme ça, les gens pourront venir louer une chambre et avoir la vue sur le Mexique. Ouais.
Peut-être aussi on aura un mur entre le Canada et les États-Unis.
Peut-être aussi,
on ne sait jamais. Alors, il faut faire vite, madame, monsieur. Si vous voulez toujours aller visiter les États-Unis, vous avez jusqu'au 7 novembre 2016. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes pour traverser les frontières.
Surtout si vous êtes canadien ou mexicain.
C'est quand même un virage historique pour les femmes. Okay. Et si jamais on élisait une femme présidente pour les États-Unis? À 98 ans, Estelle n'aurait jamais pensé voter pour une femme à la Maison-Blanche, mais elle l'a fait. Et comme elle, les Américains pourraient prendre mardi un virage historique en élisant leur première présidente, Hillary Clinton, 69 ans, et espèrent briser l'ultime plafond de verre après être devenue en juillet la première femme candidate d'un grand parti à l'élection présidentielle américaine. Quand Estelle Liebow Schultz est née en juin 1918, les Américaines n'avaient même pas le droit de vote. Ils l'ont obtenu en 1920. Voir un tel accomplissement dans ma vie, dit-elle, est très important. Et donc, c'est intéressant de voir la femme et aussi la façon dont les femmes ont été traitées. Par le langage très vulgaire, vous savez, fameuse cassette.
Je crois que le résultat de l'élection sera historique pour les femmes d'une manière ou d'une autre, parce que si Trump est élu, c'est quand même une régression historique sur 30 ans d'avancée sociale. Si c'est Clinton, on comprend aisément pourquoi c'est une grande victoire pour les femmes. Mais ce qu'a dit Trump, de punir les femmes qui avortent, des choses comme ça, c'est vraiment nous replonger dans des années sombres.
Pour lui, la femme est un objet.
Je ne sais pas et trop si la femme parle beaucoup dans son monde à lui.
Oui, et d'ailleurs, ça donne de mauvais exemples pour les jeunes garçons, les jeunes femmes. Et donc, on a entendu chanter M. Trudeau, on a entendu des parodies de M. Trump. Et bien, cette fois-ci, je vous invite à entendre Mme Hillary Clinton qui sait chanter et danser aussi. Hein.
Ah, elle danse aussi.
Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. Because can't trust a man you can date with a tweet. Don't let anyone tell you that our country is weak. He insults John McCain, who deserves our respect, ignores his debts. What the heck? Bernie and I will work together. We all know he's a national treasure. Me and Bernie.
Than I am tonight, but we need to fight. Fight for tweets, 40 hours a week.
Bridges are better than walls, so Pokemon go to the polls.
Never, ever, ever forget it. No, for what you did for me. I ask you to carry Hillary in this election this year. Reject cynicism and reject fear.
Me and Bernie.
Bernie and me. The DNC and the emails, putting a finger on the scales.
What the hell? I heard they got an excuse though. It was just a Russian prank roll. Hack a no hack, it made me cringe into my couch crack. Found a crusty Cheeto that I never thought I'd get back.
Me and Bernie, Bernie and me.
Pas mal, hein? N'est-ce pas?
C'est dansant, oui.
Nous avons des experts pour vraiment cataloguer, mais aussi faire chanter nos politiciens, car la politique est très très sérieuse, n'est-ce pas? Alors, c'est très intéressant aussi de voir les grandes vedettes américaines qui donnent des concerts gratuits pour Hillary Clinton, et encore une fois, M. Trump qui trouve que Hillary triche. Elle n'a pas le droit de faire venir les vedettes
à ce concert.
Mais oui, pourquoi? C'est tricher ça, n'est-ce pas? C'est incroyable. Alors, je rappelle aux gens que dans la deuxième heure, nous allons avoir... professeur Nicolas D'Ambrosio, buongiorno professeur, si vous nous écoutez sur internet, il est professeur de littérature française et il est aussi le traducteur officiel des œuvres du professeur Eddie Bouraoui, qui nous écoute peut-être ici, qui vit dans la région de Toronto. Et nous allons avoir aussi les invités de Radio France Internationale pour nous parler un peu de l'aspect économique dans ce monde peut-être un peu compliqué pour nous, madame, monsieur, les étudiants aussi qui nous écoutent, pour savoir un peu où en est l'état des choses. Et nous allons recevoir à la fin de l'émission Anne Forrest Wilson, que vous connaissez bien,
oui, bien
et la fondatrice de l'écriture en mouvement. Je rappelle que nous sommes très heureux d'avoir à ma gauche ou à ma droite un DJ spectaculaire, très professionnel, qui fait ça avec une main de maître, DJ Devera, assisté aujourd'hui de Sloan Ballant pour la mise en onde et qui est stagiaire, qui sera peut-être un jour mon remplaçant, n'est-ce pas? Alors, nous allons passer aux nouvelles de Radio France Internationale, le point de l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'avoir d'autres surprises au mois de novembre? Il reste 2 jours. Hein,
il
seulement.
Reste 2 jours, oui. On a le temps d'être étonné. Déjà hier soir, on a été très étonné.
Ouais. Mais... Alors, le point de l'actualité, on se revoit de l'autre côté.
J'ai des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
On t'y goûte miel, on t'y goûte fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains
ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Morning Ride.
I just want to say good morning to our listeners.
Morning Ride, we say. Wake up.
The CIUT membership drive happening November 14th to the 20th is your perfect chance to support your favorite shows. You can also donate early online at CIUT.FM.
Reykjavik Calling at the Horseshoe Tavern, Saturday, November 12th. Reykjavik Calling, in partnership with CIUT FM, presents an Icelandic-Canadian collaborative concert featuring Icelandic musicians Axel Flovent and C. Stone, alongside the dynamic Canadian duo Lal. Admission to the free concert will be granted on a first-come, first-served basis at the Horseshoe Tavern, 370 Queen Street West. Doors open at 9, show at 9:30 p.m. Reykjavik Calling, a free concert, Saturday, November 12th, Horseshoe Tavern.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Et d'un point de vue financier, il a complètement raison.
Les forces spéciales irakiennes étaient à nouveau engagées ce samedi dans la partie est de Mossoul. La veille, ils avaient déjà tenté une première incursion qui a été contrée par une résistance acharnée de la part des djihadistes qui sont dans leur dernier grand bastion en Irak. Les autorités turques ont ordonné, dans l'attente de leur procès, le placement en détention de 9 membres du quotidien d'opposition Cumhuriyet. La veille, c'est le parti pro-kurde HDP qui était visé par les interpellations. L'échéance présidentielle présidentielle aux États-Unis se rapproche. C'est le 8 novembre, mardi, qu'on saura qui succédera à Barack Obama à la Maison-Blanche. Hillary Clinton et Donald Trump poursuivent jusqu'au bout leur campagne afin de convaincre les électeurs indécis et ceux, les autres, d'aller voter. La candidate démocrate et le candidat républicain sont au coude à coude dans les sondages. Le Croissant Rouge libyen a retrouvé les corps de 40 migrants morts noyés au large de la capitale Tripoli. Ils ont tenté de rejoindre les côtes européennes. En milieu de semaine, deux naufrages ont entraîné la mort par noyade d'environ 240 personnes. Mais les secours en mer ont également permis de sauver plus de 2200 migrants dans la journée de samedi, selon les gardes-côtes italiens. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, met en garde les entreprises contre la tentation de conclure des accords spéciaux avec le Royaume-Uni avant l'ouverture des négociations sur le Brexit. La première femme candidate à l'élection présidentielle de l'histoire de la Gambie a annoncé son retrait de la course. Issatou Touré apporte son soutien au candidat unique de l'opposition. Il est membre du parti démocrate unifié pour tenter de battre le président sortant, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans et qui brigue un cinquième mandat. C'est un nouveau coup dur pour l'organisation séparatiste basque espagnole ETA. Interpellation au Pays basque français de l'un de ses derniers chefs présumés dans la clandestinité, Mikel Irastorza, qui a été arrêté dans les Pyrénées-Atlantiques et placé en garde à vue au commissariat de Bayonne. Et puis le tennis, un nouveau patron, l'Écossais Andy Murray, devient le numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière et ce, sans jouer. En effet, depuis la défaite de Novak Djokovic, ex-numéro 1 en quart de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, Andy Murray n'avait plus que la demi-finale contre Milos Raonic à gagner. Mais le Canadien, touché à la cuisse la veille contre Joe Wilfried Tsonga, a déclaré forfait. Et puis, en rugby, la Nouvelle-Zélande, qui restait sur un record de 18 victoires d'affilée sur la scène internationale, a été battue ce samedi par l'Irlande, 40 à 29 en test match au stade de Chicago. C'est un succès également historique pour le 15 du trèfle. Grâce à 5 essais, c'est la première fois en 111 ans que les Irlandais battent les All Blacks. Vous êtes à l'écoute des RFI, les minuits passés de 33 minutes en temps universel.
RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
En direct de Hart House Studio, l'Université de Toronto, vous écoutez une émission spéciale, Popourri Show, CUT-FM, Témoins de l'histoire, en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises de l'Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto. Présidentielle américaine, est-ce le déclin de l'Empire américain? Et bien sûr, je suis en compagnie toujours avec le professeur directeur du département d'études françaises à l'Université de Toronto, Pascal Michelucci. Bonjour, merci Eric. Encore d'être là. Cette deuxième partie, nous allons nous transporter cette fois-ci avec des Français vus de France. Et tout à l'heure, nous irons en Italie, vus de l'Italie. Nous étions à Montréal, vus de Montréal. Yukon, vue de Yukon, pourquoi pas. Alors, du magazine Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de Radio France Internationale, nous allons faire un constat, le constat de l'économie américaine en demi-teinte avec des invités et analystes qui sont très réputés, ont écrit des livres, des professeurs d'université, des économistes. Et j'aimerais bien avoir vos impressions, votre opinion, après ce court reportage de Radio France Internationale.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, cap sur les États-Unis. Vous le savez, impossible de l'ignorer, la puissante Amérique élit son nouveau président le 8 novembre prochain. Les deux candidats ont mené une campagne très dure. Donald Trump n'a pas ménagé sa concurrente Hillary Clinton, qui a résisté stoïquement aux attaques. Et si les sondages disent vrai, le 8 novembre au soir, c'est une femme, Hillary Clinton, qui succédera à Barack Obama. Mais quelle situation économique trouvera-t-elle ? Comment expliquer le vieillissement de la population américaine, la modeste croissance et la flambée des inégalités aux pays de Microsoft, de Google et de Facebook ? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser aux quatre invités que je vous présente maintenant. Bonjour William Stewart.
Bonjour.
William Stewart, vous êtes américain, vous avez fait vos études dans le New Jersey, pas loin de New York, et vous vivez en France depuis très longtemps. Vous êtes enseignant à l'American Graduate School of Business and Economics. Est-ce que vos étudiants s'intéressent de très près à la campagne électorale en cours et aux implications économiques de cette campagne ?
De très près, non. Non,
pourquoi ?
Jamais.
Pourquoi ?
Jamais. Parce qu'ils sont jeunes.
Et donc ?
C'est loin d'eux. Et ils savent tous que Hillary est la meilleure personne de l'histoire des États-Unis et qu'il a un mari très fidèle.
C'est
moins,
ce que vous leur dites.
C'est ce qu'ils pensent.
Alors avec nous également dans ce studio, Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Véronique Riche-Flores, vous dirigez un centre de recherche économique qui porte votre nom, Véronique Riche-Flores Research.
Exact.
Vous faites du conseil aux banques et aux investisseurs. Est-ce que le résultat de l'élection américaine inquiète votre clientèle ?
Eh bien, moins qu'il ne me préoccupe moi-même. Je dois dire que les investisseurs sont pour l'instant relativement confiants, d'abord dans la victoire d'Hillary Clinton. Alors, se posent bien des questions, effectivement, sur ses marges de manœuvre, etc. Mais à partir du moment où le scénario Trump a été un petit peu mis de côté, comme les sondages le suggèrent, c'est vrai qu'on a senti que les investisseurs ont très rapidement écarté cette source de préoccupation. Donc, et quand je suis un peu moins certaine à la fois des résultats, mais surtout des marges de manœuvre d'Hillary Clinton face à une situation extrêmement compliquée, je suis personnellement un peu plus inquiète.
Nous en reparlerons tout à l'heure. Denis Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Denis Ferrand, vous êtes le directeur général de Coerex Ecode, ce qui veut dire Centre d'observation économique et de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. On en a terminé.
Bravo.
Votre centre a deux missions, la veille économique et la participation au débat de politique économique. Est-ce que cela veut dire que vous participez au débat de politique économique sur les États-Unis ?
Nous sommes très centrés sur la France pour le débat de politique économique, mais en revanche, cela ne nous interdit pas de regarder les programmes des deux candidats. Et il y a des divergences qui sont quand même majeures entre les deux protagonistes à l'élection américaine. Et il n'y aura pas probablement la même économie américaine selon les deux branches alternatives, selon la branche alternative. Selon qui l'emporte, tout à fait.
Je termine ce tour de table par vous, Douglas Yates. Bonjour.
Bonjour.
Douglas Yates, vous enseignez à l'université de Cergy-Pontoise dans la proche banlieue parisienne. Vos travaux universitaire mêle politique et économie. Vous avez beaucoup travaillé sur l'Afrique, en particulier un livre publié en 2012, The Scramble for African Oil, qu'on peut traduire en français La ruée vers le pétrole africain. C'est aux éditions Pluto Press à Londres. Mais vous travaillez aussi sur les États rentiers. Est-ce que l'État fédéral américain est un État rentier ?
Ah non, mais c'est vrai, les États-Unis sont riches en ressources naturelles, premier producteur de plusieurs choses comme de l'or, de manganèse, de phosphate, mais ça ne dépend pas sur leur rente minière. Donc non, c'est pas un État rentier.
Alors, au cours de cette émission, des reportages tous signés Carlotta Morteo. Carlotta Morteo qui traverse en ce moment les États-Unis d'est en ouest, de New York à San Francisco, et qui, à l'occasion de trois de ses haltes, nous a envoyé des témoignages sur l'économie américaine. William Stewart, je vous donne la parole en premier. On a l'impression que l'économie n'a pas occupé une place très importante dans l'actuelle campagne électorale américaine. C'est exact ou c'est une impression trompeuse ?
Oui et non. Je crois que ça n'a pas joué un grand rôle pour les démocrates parce que les démocrates sont au pouvoir. Et l'économie américaine va très bien. Le chômage est à 5%, La croissance n'est pas aussi haute qu'on voudrait, l'inflation est assez basse, mais c'est une autre question sur les mois à venir. Monsieur Trump, par contre, a basé la plupart de son argumentation sur le fait que les Américains sont beaucoup plus pauvres qu'il y a 8 ans, ce qui est faux, que le chômage c'est 15-20%, qui est faux, que les Mexicains, les Portoricains, je ne sais pas qui, rient dans leur barbe aux États-Unis parce que les États-Unis sont tellement faibles, ce qui est faux, mais personne ne l'a réellement pris au sérieux, sauf les gens qui adorent M. Trump, qui l'ont pris très au sérieux et qui ont indiqué hier dans le New York Times qu'ils sont prêts à faire une révolution violente quand Hillary gagnera, ce qui est absolument...
Alors, on va revenir au sujet purement économique. William Stewart disait à l'instant que les États-Unis, sur le plan économique, allaient très bien. C'est votre impression également, Véronique Rich-Lorez ?
Alors, c'est une appréciation qu'il faut toujours avoir de manière relative. Alors, relativement à la zone euro, les États-Unis vont formidablement bien, notamment en matière de chômage. Relativement à l'histoire économique américaine, alors, c'est une autre histoire. Et on peut effectivement être tenté de dire que l'économie américaine va très mal. Très mal, parce qu'en réalité, elle est en panne de ce moteur qui est absolument essentiel dans une économie très cyclique. C'est le moteur de la productivité. Et sans cette productivité, on voit que les entreprises n'arrivent pas à créer durablement d'emplois. On voit que par ailleurs, le secteur tertiaire des services, qui a été le gisement d'emplois, en particulier des emplois peu qualifiés qui ont permis de hisser toute une grande partie de la population américaine dans le marché du travail et d'en faire des classes moyennes qui consomment, qui se logent. Et donc une dynamique qu'on regardait, nous, d'Europe, traditionnellement, avec des yeux envieurs. Cette dynamique n'existe plus parce que la crise, effectivement, le poids de la dette, l'exclusion font que ça devient de plus en plus difficile. Donc, vous voyez que si on se cantonne aux chiffres américains de ces quelques derniers mois, on a l'impression que tout va très bien. Si on remet dans une perspective plus longue, alors c'est une autre Amérique qui se dessine et qui explique vraisemblablement la montée, effectivement, d'une certaine revendication.
Denis Ferrand, votre analyse sur l'économie américaine, il y a aussi, quand on met en perspective, à relativiser cette bonne santé ?
Il y a effectivement des changements qui sont assez majeurs sur l'économie américaine pendant très longtemps. La référence de croissance que l'on avait pour l'économie américaine et qui permettait d'avoir une montée des revenus, non pas homogène, mais en tout cas une montée de ce que les ménages pouvaient gagner, c'est le référentiel de croissance, c'était à peu près 3% de croissance du PIB pour les États-Unis. Les années à venir, ce référentiel ne sera plus à 3%, mais ce sera plutôt aux environs de 1,6, 1,8. Ce sont les projections que retiennent un institut très sérieux comme le Congressional Budget Office, qui donne ses prévisions à un horizon de 10 ans. Et pour deux explications principales. La première explication que rappelait Véronique Rich-Lorez à l'instant, qui est le fait que les gains de productivité ralentissent, et moins de gains de productivité, c'est moins de possibilités de distribuer du revenu, à la fois à destination des ménages, mais également à destination des entreprises. Et c'est aussi le fait que la dynamique démographique américaine n'est plus aussi forte qu'elle ne l'était au cours des 30 à 40 dernières années. La progression du nombre de personnes potentiellement en emploi va être désormais deux fois plus faible d'ici les 10 prochaines années qu'elle ne l'était précédemment.
On reviendra là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. Mais je voulais vous demander, Douglasiès, est-ce que vous partagez le point de vue de ces deux Français qui est beaucoup plus critique que celui de votre compatriote William Stewart ?
Comme beaucoup, j'étais surpris en faisant un peu de recherche avant de venir et parler de sujets pointus de l'économie américaine, comme c'est difficile de distinguer entre l'économie américaine et l'économie mondiale. C'est tellement grande. Mais oui, je suis d'accord que probablement la croissance ne va pas continuer autant qu'il avait, mais c'est énorme. C'est la première économie mondiale, un cinquième du PIB mondial. C'est des États-Unis. Il y a les technologies de pointe. Vous avez des richesses de financement. C'est attirer des financements du monde entier. Et ce qu'on voit, c'est dans nombreux secteurs, les sociétés américaines restent numéro un en aéronautique, Boeing, boisson, Coca-Cola, logiciel, Microsoft. Microsoft, pétrole, ExxonMobil, pharmacie. Donc, il y a des gagnants dans cette économie, mais certainement, il y a aussi des perdants. Et ce que je veux juste conclure, ce petit discours, c'est chez nous, le rêve, c'est la réussite individuelle. Donc, tout ça ne compte rien pour un individuel. La réussite d'un pays, c'est une abstraction. C'est mon réussite à moi qui compte. Et là, on trouve pour beaucoup des gens, leur portrait, de robot portrait d'économie américaine est misérable.
On va en parler, bien sûr. Laissez-moi vous dire quand même que l'un des phénomènes majeurs de ces dernières années aux États-Unis, en tout cas très important, ça a été l'émergence du gaz de schiste et l'effet que les États-Unis sont devenus exportateurs de pétrole. La baisse des cours mondiaux pose bien sûr des problèmes aux compagnies pétrolières. L'économie du Texas, par exemple, qui est un grand état pétrolier, en a pris un coup. En particulier, le bassin pétrolier permien, au nord-ouest de ce grand état. Mais à Midland-Odessa, deux villes accolées l'une à l'autre, les pumps Jack, ces balanciers qui puisent l'or noir dans les sous-sols, poursuivent leur interminable balai. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Carlotta Morteo.
Et oui, vos réactions?
Et oui, non, mais je pense que les analystes ont raison de faire la différence entre l'économie globale, les mesures internationales assez objectives qui parlent de la masse économique et l'importance des États-Unis. Et l'économie réelle pour les individus qui se sentent déclassés, d'autant plus que les perspectives d'emploi ne s'améliorent pas quand on a plus de 40 ans ou 50 ans. Et quand on n'a pas de l'éducation nécessaire pour rebondir dans une économie en mouvement, et bien forcément, l'horizon est plutôt sombre.
Il faut aussi parler peut-être avant la fin de l'émission, les échanges entre les universités des États-Unis et du Canada, parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, n'est-ce pas? Comme en France et Toronto, on a vu, il y a des officiels du gouvernement français, il n'y a pas tellement longtemps, qui étaient ici dans votre département, n'est-ce pas, pour signer des ententes, des conventions. Ce qui m'a vraiment surpris cette semaine, alors je remercie beaucoup mes collègues à Paris du RFI et le magazine Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Très bon magazine, très bien réalisé, n'est-ce pas, avec des professionnels de l'économie. Et j'ai vu un documentaire à TV5 cette semaine, à mon cher Pascal, qui m'a vraiment étonné. C'est des Indiens, des Hindous en Inde, qui vénèrent Donald Trump parce que pour eux, c'est le dieu de la réussite. Et alors, les gens sont très superstitieux, on sait, dans certains pays. Et donc, on les lève au même pied d'un dieu. Et pour eux, ils prient à chaque instant pour que Donald Trump soit le prochain président, parce que pour eux, c'est le succès dans les affaires.
C'est peut-être à cause de l'éléphant, parce que le dieu de la réussite chez les hindous, c'est Ganesh.
Ah oui, oui, oui.
Et donc, l'éléphant est parti républicain.
Dans un instant, mesdames, messieurs, nous allons faire une escale, cette fois-ci, dans une ville que peut-être vous connaissez, Barry. Ça n'a rien à faire avec le Barry en Ontario, qu'on connaît, mais c'est l'université de Barry, avec notre ami de toujours et collaborateur, correspondant de Radio France Internationale de CUT-FM, Popourri Show, le professeur Nicolas D'Ambrosio.
Sur quelle planète suis-je tombé?
La planète Terre.
Bonjour. RSI.
RFI. Tout un monde.
En direct de Studio Hot House, l'Université de Toronto, émission spéciale, Popourri Show, CUT-FM, témoin de l'histoire, en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, Université de Toronto et le journal L'Express de Toronto. Alors, mon cher Pascal, notre ami et professeur invité aujourd'hui en direct de l'Italie, vous savez que son pays a été affecté par de récents tremblements de terre, il y en a eu plusieurs, et le dernier, c'était dimanche dernier. dernier, le 30 octobre, 6,5 hein, à l'échelle Richter. Et c'est le plus puissant après le séisme du 24 août dernier. L'épicentre se situerait près de Norcia, dans la région de Pérouse. Ce séisme est ressenti jusqu'à Rome, hein, a fait pour l'instant quelques dizaines de blessés, dont un grave, et plus de 25 000 personnes sont déplacées. Et dans son petit mot, notre invité nous a dit, je cite, « C'est une vraie tragédie humaine et culturelle, beaucoup de victimes et beaucoup de dégâts. Si nous pleurons nos morts, il faut dire aussi que nous avons perdu quelque chose qui touche notre âme. Pour un pays qui a le beau et la beauté comme signe distinctif de son identité, la perte est immense. » J'espère que cela va réveiller l'esprit créateur des Italiens, aujourd'hui plutôt égarés et pas sûrs d'eux-mêmes, pour un nouvel humanisme sur le plan humain et culturel. Et oui, madame, monsieur, bienvenue, professeur Nicolas D'Ambrosio, et merci mille fois de la part de toute l'équipe d'être présent dans ce moment historique. Buongiorno.
Et buongiorno Eric, buongiorno.
Buongiorno. Je suis avec un collègue de votre université qui pourrait peut-être un jour travailler avec vous. C'est le professeur Pascal Michelucci, ici, qui est le directeur de l'université de le département d'études françaises de l'université de Toronto. Donc, il va intervenir de temps en temps pour alterner les questions. Encore une fois, merci d'être là. Alors, là où vous êtes, professeur, est-ce que vous suivez le déroulement, le cours de cette campagne électorale présidentielle américaine?
Ah oui, bien sûr, oui, nous sommes concernés, vous savez. Il y a des... Parce que, vous savez, tout se touche aujourd'hui. S'il y a des vagues qui viennent de New York, elles vont arriver jusqu'à chez nous, donc, au point de vue donc culturel, et économique et social. Donc ça nous intéresse. Et par exemple, en Italie, il y a des gens qui sont en faveur de Trump, et il y a d'autres gens qui sont en faveur de notre Hillary Clinton. Bien sûr, pour ce qui concerne la droite, nous avons Matteo Salvini de la Lega Nord. Lega Nord, c'est un parti qui se trouve au nord de l'Italie, et donc qui est plutôt xénophobe. Et Matteo Salvini est allé à Philadelphie, donc aux États-Unis, pour une photo avec Trump. Il y a aussi dans le parti de parti de Forza Italia de Berlusconi, il y a par exemple un député qui s'appelle Daniela Santanchè, qui aime beaucoup donc Trump parce qu'il est contre l'establishment, c'est ça, parce que la Clinton est vue comme une représentante de cette classe dominante. En Europe, même, on a dit que Trump ressemble un peu à Silvio Berlusconi. Selon moi, disons que Trump ressemble un peu à Salvini, parce qu'il est xénophobe, un peu à Grillo, parce qu'il s'adresse donc au peuple. Il s'adresse directement, donc il est un peu populiste, un peu al cavaliere, c'est-à-dire à Berlusconi, parce que pour ce qui concerne ce rapport avec les femmes, même si le cavaliere est plus méditerranéen, donc il est plus souple, un petit peu plus élégant que Trump, donc, ouais. Parce que Trump vraiment c'est horrible, il a dit des choses vraiment horribles contre les femmes.
Et justement, ouais. Est-ce que ce langage, le ton de le langage vulgaire de Monsieur Trump, est-ce que ça a surpris les femmes, les gens en général en Italie?
Ah oui, parce que...
Alors, je pense que nous avons petit problème.
Tout modéré, par exemple. Même le cavaliere, par exemple, Berlusconi, n'aime pas beaucoup Trump. Il ne parle pas en faveur de Trump. Il y a, c'est-à-dire, une sorte de honte, si vous voulez, un peu partout, parce que c'est un langage trop fort, trop direct, il est trop agressif. En plus, vous savez, nous, on n'aime pas les armes. En Italie, pour nous, c'est terrible que les Américains puissent avoir chez eux des armes, des pistolets, des mitraillettes. Et vous savez que Trump, il est en faveur des armes, puis cette violence contre les immigrés. Mais disons il y a des éléments qui, un peu en commun même entre l'Europe en général les États-Unis. C'est-à-dire que maintenant, avant, on votait en tenant compte de son appartenance, donc à une société, à son appartenance, c'est-à-dire à la vous étiez travailleur, on votait plutôt pour la gauche, etc. Aujourd'hui, on vote plutôt pour en tenant compte de votre identité culturelle, c'est-à-dire il y a des motivations qui sont plutôt culturelles, religieuses, ethniques, raciales. Et pour nous, Trump, c'est une sorte de, ce n'est pas une révolution, c'est plutôt une restauration. Parce qu'on se rappelle Dieu, la patrie, la famille. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la famille, on parle aussi du travail. Parce que s'il y a un manque de travail, si les Mexicains, selon Trump, volent le travail aux Américains, alors ils sont contre les Mexicains, contre les robots dans le monde du travail, et voilà, et il y a tous ces problèmes-là. Et encore, il met les immigrés contre les Américains qui sont pauvres. Parce qu'aux États-Unis, il y a au moins 20 millions de blancs américains qui sont pauvres, qui ont beaucoup de problèmes économiques, voilà.
Est-ce que, parlant de frontières, parce qu'on sait qu'il y a un afflux d'immigrants qui arrivent sur vos côtes, de temps en temps, il y a même des victimes, hein, on l'a vu à la télévision, ça dure depuis des années, et on sent qu'il y a une montée de l'extrême droite pour justement mettre des barrières, des murs, peut-être virtuels ou des murs physiques entre certains pays. Est-ce que ça fait pas l'affaire justement de certains partis de droite qui sont anti-immigrants et anti-réfugiés?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut, il faut faire attention, c'est-à-dire. Même le pape, dernièrement, a dit il faut accueillir les immigrants avec prudence. C'est la première fois qu'il dit ça, avec prudence. Alors, c'est-à-dire que le phénomène, il ne faut pas mettre des barrières, mais il faut quand même gouverner cela. C'est-à-dire qu'il faut avoir un contrôle de ces flux migratoires, parce que ce ne sont pas des faits exceptionnels. Vous allez voir, ça va être un refrain dans les prochaines années, pour plusieurs raisons. Alors, il faut intervenir en Afrique, il faut faire des accords, il faut améliorer les conditions de vie dans ce continent. C'est-à-dire, il faudrait que l'Europe tienne compte que la frontière italienne, c'est la frontière, parce que nous n'avons pas de frontière, nous avons des frontières liquides, nous avons la mer. Donc, les frontières italiennes, ce sont les frontières de l'Europe. Ce n'est pas un problème de l'Italie, c'est un problème de l'Europe qu'il faut gouverner. Donc, en tenant compte que même l'ONU doit s'occuper de ça, parce que nous risquons d'avoir donc des migrations, disons, bibliques. Et en Italie, vous savez, nous sommes... le Canada est 33 fois plus étendu que l'Italie, et vous avez la moitié de notre population. Donc, c'est un pays un peu surpeuplé, l'Italie.
Oui. Mais on est 33 fois plus froid aussi.
Écoutez, avant de partir, professeur D'Ambrosio, vous êtes professeur de littérature française. Ça, c'est très intéressant. Et je répète qu'il y a beaucoup d'Italiens qui aiment la langue et la culture française, le cinéma français, la lecture des écrivains francophones. Et est-ce que vos étudiants, vos collègues, parlent un peu de ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que ça les inquiète?
Ah oui. Parce que pour ce qui concerne les États-Unis, ils sont toujours à la une de nos journaux télévisés. Donc, vous savez, en plus, qu'il y a notre président du Conseil et le président Obama, donc, ont de très, très bons rapports. En plus, disons que, pour ce qui concerne, par exemple... le président de la République démocrate, donc ont toujours eu de très bons rapports, surtout avec donc les partis du centre gauche de l'Italie. Donc donc voilà, nous suivons beaucoup parce que nous avons des rapports très étroits, et nous avons aussi donc aux États-Unis donc une présence italienne qui est immense. Donc nous avons nous avons des parents, des amis.
D'ailleurs, le premier ministre italien était à la Maison Blanche pour le dernier banquet avec monsieur et madame Obama. Alors, c'est le dernier banquet et ça a clôturé. D'ailleurs, je pense que monsieur Obama, le président Obama, sera aux États-Unis pour visiter justement la ville qui a été touchée par le tremblement de terre. Est-ce que le moral, pour terminer rapidement, se remet tranquillement après les séismes que vous avez?
Non, c'est dur, parce qu'après le 24, on avait déjà commencé à travailler pour résoudre certains problèmes. Et puis deux mois plus tard, il faut recommencer maintenant. Il faut aller visiter toutes les maisons pour voir les dégâts, tout ça. Donc c'est grave. Puis en plus, nous avons beaucoup d'œuvres d'art. C'est beau, la Norcia, Perugia. Ce sont des villes qui sont très très belles, merveilleuses. C'est la Toscane, l'Umbre, sont peut-être les régions les plus belles d'Italie au point de vue donc de l'art. C'est ça. On doit recommencer.
Oui, au nom de toute l'équipe et en mon nom personnel, nos condoléances et nous pensons bien à vous. Vous le savez, on est amis depuis très longtemps et grâce au professeur Eddy Bouraoui, vous en êtes d'ailleurs le traducteur officiel de ses œuvres de français à l'italien. Et on espère vous revoir très prochainement, soit nous en vous visitant en Italie, parce que j'ai de la famille à Torino.
Et, venez me voir.
Très bien. Allez,
au plaisir, monsieur D'Ambrosio.
Merci, grazie, arrivederci.
On se revoit après le 8 novembre.
D'accord, va bene, grazie.
Au revoir.
Arrivederci, grazie.
The sound of your city. Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto.
Francophonie.
Avec vous Dominique Bayer, bonjour.
Dis madame, s'il te plaît, tu peux me dessiner un francophone?
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Bientôt à l'émission.
Bonjour et merci de nous accompagner ici à Port-au-Prince. Nous sommes dans le studio que RFI a monté tout spécialement pour ces deux heures d'émission que je vais avoir le plaisir de vous présenter en direct de la capitale haïtienne avec des invités, avec notre correspondante Amélie Baron. On va parler politique, société, on va parler de l'avenir d'Haïti. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. On compte sur vous.
Forgive people that deceived me. I have a permit to carry. Believe me, I've been waiting for 10 minutes. I will
you
say have, this.
You're over your time, though.
You've let a lot of people go over their time. It's kind of frustrating because unless somebody mentions my name, I can't.
Baby, 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 I'm so hot. Why do we have to have an election? Stupid, stupid losers. Got us headed in the wrong direction. We've got to be smart. We've got to be tough. I'm killing everybody like a rocket ship. I will not. I love Mexicans, they're rapists. I am the greatest, the greatest. I love Mexicans, they're rapists.
Songify this.
before you have to up and go.
Before you go,
you should watch another episode.
Et oui, madame, monsieur, où que vous soyez à travers la planète, on dit bien le bonjour. Nous arrivons presque à la fin de notre voyage intercontinental. Ça va toujours? Pas trop de mal de l'air, mal de mer?
Non, on a beaucoup voyagé, mais je suis toujours là.
En ce dimanche 6 novembre, c'est un moment historique.
Il me semble, hein, c'est quand même important. Ça fait un an et demi déjà que les élections.
Il y a des moments comme ça dans sa vie où on va se souvenir jusqu'à la fin de nos jours où on était. À des moments marquants. Par exemple, quand Nelson Mandela avait quitté sa prison, j'étais dans le nord de l'Ontario, à Hearst, et il faisait un froid sibérien avec 40 cm de neige. Je ne pouvais pas me déplacer. Il n'y avait pas d'avion. Vous savez, ces petits avions, là, les moteurs de 11 places. Et donc, j'étais coincé devant la télévision dans un motel. À regarder, donc je me souviendrai toujours,
ah bah oui,
la mort d'Elvis Presley, par exemple, et quand le mur de Berlin est tombé, quand l'Union soviétique s'est désagrégée, hein, et quoi d'autre encore, quand le premier président noir a pris le pouvoir à la Maison Blanche, où étiez-vous à cette époque?
À Toronto, oui. Mais... pas exactement.
Et quand on a attaqué Paris,
le 14 juillet,
oui, en novembre aussi, et je me souviens, 15 novembre l'année dernière, et puis Nice.
13 novembre
aussi.
Pour Bataclan.
Oui, alors, donc, c'est un moment historique, et dans notre élan de célébration pour notre 30e anniversaire, nous sommes allés fouiller dans les archives de RFI, mais aussi de CUTFM, parce que depuis 30 ans, nous avons. Dialoguer, nous sommes témoins de beaucoup d'événements dans notre territoire, mais aussi à travers le monde. Et donc, j'ai plusieurs CD comme ça que j'ai retrouvés. Et entre autres, il y a un CD spécial, Aimé Césaire, avec notre regretté, le professeur Fred Case. Et c'était quelques jours même avant sa mort. Hein. Il était ici de passage. Il y avait le professeur... Alexis Tuap, qui est professeur d'ailleurs, c'est votre adjoint, hein,
c'est votre adjoint, collègue,
oui, voilà. Il devait d'ailleurs être à l'émission aujourd'hui, mais je pense qu'il est en voyage.
Oui, il est en déplacement.
Voilà, alors donc je dis bien le bonjour. Et puis il y avait le poète et l'écrivain Édouard Monique, qui a travaillé aussi à Radio France Internationale, qui est mauricien et qui était vraiment en direct de l'île Maurice pour rendre hommage à ce grand écrivain Aimé Césaire. Et ça, c'était en 2010. Alors, c'est pour vous dire, c'était au mois de mai 2008. Voilà. Alors, donc, on va reprendre ces émissions. On pourra monter peut-être des archives avec vos étudiants, avoir un genre de médiathèque au département d'études françaises.
Une mémoire culturelle,
exactement.
Historique, de l'actualité,
oui,
importante.
Exactement.
De
alors, on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Et vous, où serez-vous tout à l'heure, vous allez me donner d'ailleurs quelques idées de sorties pour aller célébrer ou enfin assister, regarder. J'étais pour dire le match, c'est presque un match.
Grand écran,
hein.
Ouais,
c'était
ouais,
presque
c'est
un
match de boxe.
Ah oui, oui, en effet.
Pas de quartier.
Ouais, hein. Ouais. Alors tout à l'heure, vous nous donnerez quelques idées. Alors, nous allons passer en Afrique parce qu'on n'a pas parlé vraiment de grands enjeux sur la scène internationale dans ce débat présidentiel aux États-Unis. Vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Oui, il faut pas perdre de vue aussi que l'Afrique va subir un essor démographique sans précédent. Et va devenir la première puissance démographique de la planète d'ici 2050.
Il faut rappeler aux gens que là où il y a plus de locuteurs francophones, c'est le continent africain.
Et oui, effectivement. Ouais.
D'ailleurs, le prochain sommet de la francophonie sera à Madagascar, Antananarivo, la capitale de Madagascar. Vous y serez peut-être?
J'en doute.
Alors, dans le journal, vous connaissez sans doute le magazine Jeune Afrique. Très intéressant de voir une analyse de l'éditeur Marwan Ben Hamed. Il est le directeur de publication de Jeune Afrique. Et selon lui, Donald Trump est le déclin de l'Empire américain. Il écrit, les Américains sont capables de tout, de porter un noir à la Maison Blanche et peut-être une femme demain si Hillary Clinton l'emporte. Mais aussi, hélas, d'élire Donald Trump. Alors, longtemps sous-estimé ou moqué à tort, Trump est un ovni politique, j'aime bien ce mot, un ovni politique, y compris pour son propre camp, plutôt habitué aux candidats traditionnel et bien coiffé, sa recette est simple. Culte de l'identité nationale et xénophobie. Mise au pilori des élites dirigeantes jugées responsables du déclin de la nation, repli sur soi et art consommé de la transgression, voire de la provocation. Trump, selon lui, est le symptôme de la peur qui étreint l'Amérique.
Je ne suis pas sûr que les républicains soient de cet avis. Hein. Les républicains ont quand même passé deux mandats à George Bush. Ils ont failli le faire à Sarah Palin et maintenant ils s'apprêtent à le faire à Donald Trump. Mm. Donc quel sera le prochain candidat qui peut ajouter à cette série catastrophique de candidats d'ici 4 ans?
Ouais. Alors, nous allons tout à l'heure passer à notre dernière invitée. Madame, monsieur, ne partez pas. Je vous rappelle qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses et peut-être pendant qu'on est en onde, déjà, il se passe d'autres événements dans cette campagne électorale. C'est le dernier sprint final avant le jour J, c'est-à-dire le 8 novembre prochain. Il ne reste que 2 jours encore pour que les candidats attirent des foules ou encore des gens en leur faveur. Je vois que Madame Hillary Clinton a perdu un peu sa voix hier. Elle était à Miami.
Sous la pluie.
Voilà, justement. Et pour une fois, elle a rencontré des Haïtiens. Vous savez qu'il y a un village qui s'appelle Little Haiti à Miami. Et parce que vous savez, Trump avait rencontré justement les Haïtiens à un moment donné. Et moi, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Comment se fait-il que les Haïtiens votent Trump? Mais on a renversé la vapeur. Et hier, Mme Hillary Clinton a eu un accueil très chaleureux de la part de la communauté haïtienne et il y en a beaucoup qui militent pour eux. D'ailleurs, on trouve que les votes de Noirs et des Hispaniques ont un peu baissé dans les sondages comparables en 2012 quand M. Obama était dans la course. Alors, vous avez vu comment il a fait sillonner avec Air Force One, s'il vous plaît.
Avec 24 000 kilomètres en 24 heures.
Émission spéciale.
Monsieur le Premier ministre, les grandes fortunes, c'est tabou. Aussi, beaucoup de Français, notamment de gauche, sont choqués par le tapis rouge que depuis plusieurs mois vous déployez sous les pieds des grandes fortunes étrangères. À vrai dire, quand ils ont voté pour vous, ils imaginaient pas une minute que ça allait se passer comme ça. Mais quand vous-même, vous vous glorifiez de vendre nos aéroports de province, nos aéroports de province, quand le président de la République accepte de porter le chapeau devant les grandes fortunes kazakhs pour essayer de les séduire, pour essayer de les séduire dans cette grande démocratie bien connue de tous qu'est le Kazakhstan. Finalement, monsieur le Premier ministre,
s'il vous plaît,
les seules grandes fortunes que vous ne courtisez pas, peut-être parce que vous ne les aimez pas ou que vous les aimez moins, ce sont les grandes fortunes françaises. Pour elles, pas de chapka, pas de manteau de fourrure, mais des impôts et le plus souvent l'opprobre. Alors monsieur le Premier ministre, ma question est simple, ma question est simple. Comment expliquez-vous que nous soyons le seul pays à traiter moins bien les capitaux nationaux que les capitaux qui viennent de l'étranger, en n'ayant respecté aucune de nos normes, ni fiscales, ni sociales, ni environnementales?
La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls.
D'une élection à l'autre, madame, monsieur, bientôt nous allons parler de l'élection présidentielle française. Bien sûr, vous avez reconnu un montage de nos DJ experts en la matière pour faire chanter nos politiciens. Est-ce qu'on pourra un jour vous faire chanter les professeurs de l'Université de Toronto? Hein? C'est possible?
Ça serait pas mal.
On dit souvent que les professeurs sont des gens très sérieux, c'est vrai?
Non, ils ont beaucoup d'humour.
Dans un instant, madame, monsieur, mon co-animateur du jour pour cette émission spéciale du siècle, émission présidentielle américaine à ne pas rater le 8... On va vous présenter quelques grandes lignes pour vous donner un peu un avant-goût de ce qui se passe en ville. C'est possible d'être avec les autres pour célébrer ce moment historique.
Durant les 8 ans pendant lesquels Barack Obama était président des USA, j'étais presque fier d'être un Américain ici en France. Je le disais à haute voix dans les réunions de travail, dans les soirées. J'ai même dragué une Française en disant « Yes, we can ». Depuis que Donald Trump est le candidat chez les Républicains, j'ai finalement décidé de demander la nationalité française, que j'ai obtenue le mois dernier. Du coup, apparemment, selon Sarkozy, tous mes ancêtres sont devenus Gaulois automatiquement d'un coup. Imaginez comme ils ont été surpris. Récemment, j'ai eu un ami américain qui m'a rendu visite de New York. Enfin, je pensais que c'était pour me voir jusqu'à ce qu'il se mette à regarder les agences immobilières, à postuler pour des boulots en France et à remplir le dossier pour être un réfugié politique juste au cas où Donald Trump deviendrait président. Puis je lui parlais de candidats potentiels pour l'élection en France en 2017 et il a dit que peut-être il vaudrait mieux qu'il opte pour le Canada. Eh oui, pour retrouver un leader progressiste, il faut être prêt à se peler les miches. Mais si la droite prend le pouvoir partout, le changement climatique s'accélérera et donc on pourra être en bikini au Québec pour fêter le nouvel an 2018. Le 8.
Ah oui, madame, monsieur, il y a beaucoup de Français dans la région de la Floride. Ils ont même un journal pour les Français, destiné aux Français. Et ils ont des histoires très marrantes, je trouve, pour exprimer un peu leurs impressions sur l'élection américaine. Il faut dire que quand on est francophone, on est Français, Québécois, on voit l'actualité d'une autre façon, sous un autre angle, n'est-ce pas?
Certainement, avec un certain détachement, parce qu'on a quand même la sécurité de vivre dans des pays ouverts, pluralistes, intelligents.
Où aller le 8 novembre prochain pour assister à ce moment historique ici
à
Toronto?
Il y a beaucoup d'endroits dans Toronto où il y a des soirées spéciales le mardi soir. Hein. On peut aller par exemple au Beaver, aller au pub. Ils ont une soirée qui s'intitule « Drop Dead Election at the Deplorable Beaver ». Donc ça, c'est dans les gens qui sont dans l'Ouest, descendez, allez au Beaver. Vous pouvez aller aussi au Gladstone si vous êtes dans l'Ouest. Il y a une soirée qui s'appelle « Brugatrocious ». Vous vous rappelez le fameux mot de Donald Trump, « Brugadocious ». Donc on peut aller écouter de la musique et évidemment regarder les élections sur très grand écran.
Oui.
À la cinémathèque Hot Dog, au Bloor et Bathurst, on peut aller voir dans un cinéma la soirée qui commence à 6h30 et c'est gratuit. On a le pub Fox and Fiddle dans l'Est, sur la Danforth, à partir de 8h. Et là, on vous donne des petits amuse-gueules gratuitement. Vous achetez simplement les boissons.
Mm-hmm.
À Daniel's Spectrum, il y a aussi une soirée qui est mise sur pied par le consulat des États-Unis.
Ah oui.
Il y aura peut-être moins de bruit et moins d'agitation là-bas, mais c'est plutôt pour regarder les élections sur un grand écran à partir de 7h30. Et si vous êtes dans l'Est, n'hésitez pas à aller passer au Waila Bar.
Notre partenaire et ami de toujours.
996 Queen Street Est, dans le fameux Leslieville.
D'ailleurs, c'est... Stéphane Poquet, si tu nous écoutes, bien le bonjour. Il est breton, hein, il faut bien le rappeler. Alors, il va avoir, je pense, une drag queen ce soir-là.
Oui, il y a Miss Fouferg à partir de 9h du soir qui fera une soirée en fait, avec du karaoké.
Oui.
Et les snacks et les boissons sont à disposition à partir de 5h, les portes ouvrent.
Oui, d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site www.wellabar.ca. Mm-hmm. Et il y a autre chose? Non, ça, les gens s'organisent. Hein.
Pour les étudiants, ils iront probablement passer leur soirée au Madison. Il y a une soirée « Why should I care ?» à partir de 8h. Et là, il y aura peut-être des discussions politiques et ils prétendent être la political babysitter.
Oh yeah, ok. C'est tout?
Il y a aussi dans le Great Hall, ici même, pour regarder la fin de la civilisation américaine ou le début de son déclin. Les démocrates organisent ici une soirée pour voir les élections à partir de 7h30.
Ouais.
Aussi avec des boissons.
Très bien, merci beaucoup. Vous avez fait ça avec une main de maître. Vous devrez venir co-animer l'émission avec moi plus souvent. Hein. Ça fait, ça donne du pep, comme on dit. Alors, l'écriture en mouvement vous invite à assister à un autre événement pour la troisième édition, d'ailleurs, de quatrième de couverture. Et je pense que nous avons sa directrice générale, mais aussi la fondatrice de l'écriture en mouvement qui est avec nous, Anne Forrest-Wilson. Bonjour.
Bonjour Eric.
Oui,
bonjour,
alors,
bonjour Pascal.
Oui, alors vous avez écouté l'émission avec attention. Oui. En deux mots, qu'est-ce que ça vous dit de tout ce que vous avez entendu?
Ben, c'est très bien, c'est un digest pour moi parce que j'ai pas la télévision et je refuse absolument de regarder toutes ces bêtises.
Oui.
donc j'ai appris beaucoup de choses.
Oui,
ça n'a pas changé mes convictions, cela dit.
Oui. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Quel est l'invité qui vous a vraiment frappé dans ses propos?
Je ne saurais pas dire parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui m'ont frappé dans leurs propos et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai relevé la différence, effectivement, j'avais jamais pensé à ça, la différence entre la richesse de l'État États-Unis et versus la pauvreté d'un grand nombre d'Américains.
Mmh.
Donc ça, effectivement, je trouve que c'était une bonne chose à rappeler. Et puis, j'ai pris les ondes à 11h20, parce que j'étais en train de lire et j'ai un peu loupé le 11h. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais moi, c'est vrai que ce qui me frappe toujours dans les élections américaines, c'est l'absentéisme aux urnes, et particulièrement ceux qu'on appelle les millennials, qui sont maintenant très très nombreux. Je crois que c'est à peu près 75 millions d'Américains. Donc tous les gens entre 18 et 34 ans qui ont le droit de vote et qui se rendent en très petite proportion aux urnes, hein, parce que ça ne les intéresse plus et que le processus d'élection est un peu compliqué pour
oui.
eux. Surtout la manière de s'inscrire, si j'ai bien compris.
Oui.
Donc...
Alors, pour terminer, avant de, on nous fait signe, pour terminer, présentez-nous un peu votre prochaine édition de votre événement.
Alors, francophone, tout en français. Donc là, on est loin des États-Unis. Le prochain événement a lieu le samedi 12 novembre à 3h30 de l'après-midi. Toujours chez Augustus Jones, 33 Davis Avenue, River Street et Queen Est. Et voilà, donc on aura toujours trois chroniqueurs, une animatrice, et il va y avoir des prix de présence. Ça c'est la grande première pour la troisième. Je sais pas ce qu'on va inventer pour la quatrième de couverture. Et voilà, donc que pourrais-je dire de plus?
Oui, d'ailleurs les gens peuvent aller sur votre site internet pour s'inscrire. Il faut bien s'inscrire, n'est-ce
voilà,
pas?
Voilà, donc il faut aller s'inscrire sur www.écriture-mouvement.com
oui.
Et là on s'inscrit et on utilise le mot de code couverture.
Très bien. Alors donc j'en profite pour vous féliciter, vous remercier d'avoir participé à cette émission. Où serez-vous d'ailleurs le jour de l'élection présidentielle?
Oh ben moi j'aime bien la pizza Wella.
Mmh. Ah oui, vous aurez là. Alors donc merci encore infiniment. Vous avez un mot, dernier mot de la fin, mon cher ami?
Non, mais merci à Anne d'être venue ici participer.
Avec plaisir,
à l'émission.
Pascal.
Alors madame, monsieur, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission historique. Je dis bien une émission historique et on verra bien si l'Amérique va aller en déclin ou si on va avoir une femme à la tête de cette grande puissance ou encore Donald Trump, parce que tout peut chavirer d'un moment à l'autre. D'ailleurs, on n'a vu que des surprises depuis le début de cette campagne. Hein. Ça a été vraiment mirobolante. Alors donc, merci encore une fois à tous nos partenaires.